Donc votre thème va être beau, la vie en abondance. Et j'ai choisi de le faire, moi, en nous mettant avec Jésus à l'écoute de la fécondité de Dieu. Disciples de Jésus, nous sommes ancrés dans la parole. La parole, c'est l'écriture que le peuple a tout d'abord reçue de la montagne sainte par Moïse, dans les 10 commandements, les tables de la loi. Mais j'attire votre attention, les tables que nous avons, c'est les tables réécrites. On ne saura jamais ce qu'avait écrit Dieu au début, parce que Moïse, dans sa colère de voir le peuple avoir fait une idole, a détruit les tables. Il est remonté sur la montagne et Dieu l'a redonné des tables. Est-ce que c'est les mêmes? En tout cas, Dieu a parlé à son peuple. La loi que nous avons, c'est la loi réécrite, dans la suite de l'incapacité du peuple de vivre la solitude de sa nouvelle vocation. Il avait Moïse qui le guidait, et il n'arrivait pas à vivre sa solitude, donc il avait créé son veau d'or. Si nous sommes ancrés dans la parole, nous sommes ancrés dans ces livres, où nous retrouvons les mots de Dieu à ses premiers interlocuteurs. Alors nous commencerons pour aller voir dans le Premier Testament comment Dieu parle de fidélité dans les diverses acceptions qu'il en donne, le peuple. Puis nous verrons comment Jésus, lui, reprend le thème à l'intérieur du peuple de Dieu, appelé à être témoin de la fidélité de Dieu. Dans notre culture, nous avons fait de la fécondité un thème fondamental. Pas parce que la Bible le demande, mais parce que les êtres humains aiment en parler. Or, il est très peu cité. Si vous cherchez le terme fécondité dans la Bible, il n'est utilisé qu'une fois dans le Pentateuque. Fécondité en tant que tel, le terme. Il apparaît dans le livre du Deutéronome. C'est vrai, le Deutéronome, c'est un des 5 livres fondamentaux de la première révélation, mais qu'une fois. Le livre a 7000 pages, la Bible. Et le texte dit, « Israël, tu écouteras. Tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. » Donc, déjà, le terme de fécondité, il est rattaché à la mise en pratique de ce que Dieu te dit. Ça ouvre vraiment un beau champ. C'est en Deutéronome 6,3. Ce qui exprime clairement que ce n'est pas la descendance qui est en jeu, mais l'attention que l'on attire sur l'écoute des commandements qui vont devenir bénédiction. Si tu pratiques l'écoute de ce que te dit Dieu, tu auras la bénédiction sur toi. Quant au terme fécond, il n'apparaît que 3 fois. 2 dans les livres du Pentateuque, donc les 5 premiers livres, et 1 dans le Second Testament. Le premier texte où apparaît le terme fécond en tant que thème, c'est en Genèse 35, 11. Dieu dit encore, je suis le Tout-Puissant, sois fécond, multiplie-toi. Une nation, et même une assemblée de nations, sera issue de toi. Des rois sortiront de toi. Là, on voit la promesse d'une fécondité pour que le peuple continue à porter l'espérance. Et toujours pareil, ce qui gouverne la fécondité, c'est pas avant tout le fait de produire une vie nouvelle, c'est de devenir signe de la parole que Dieu donne. Et l'autre texte, en Genèse 48, 4, « Voici que je te rendrai fécond et multiplierai ta descendance. Je ferai de toi une assemblée de peuples et je donnerai ce pays à ta descendance en postérité perpétuelle. » C'est Dieu qui propose la fécondité par la vie qui va arriver pour que continue la promesse qu'il a donnée. Toujours pareil, c'est pas avant tout faire une vie apparaître, mais faire que la promesse de Dieu soit continuée. Et la troisième mention, c'est une méditation d'Étienne, le diacre, sur la fidélité de Dieu à son peuple. Encore pareil, en Actes 7, 17. Comme approchait le temps où devait s'accomplir la promesse par laquelle Dieu s'était engagé envers Abraham, le peuple devint fécond et se multiplia en Égypte. Et on voit Étienne, qui avant son martyr, médite ce que Dieu fait pour que le peuple puisse continuer à être témoin de la promesse. Il était en exil, donc en risque de disparaître. Dieu le rend fécond pour que la promesse continue. Donc la fécondité n'est que liée à la promesse. Mais l'idée de fécondité, elle marque profondément notre culture. Et notre culture qui est, qu'on le veuille ou non, même si on est une société laïque, marquée par le judéo-christianisme. Donc marquée avec l'idée d'Adam et Ève. Et donc, quelque part, l'idée de se reproduire. Et donc, plus sortir de l'histoire d'une fidélité pour que Dieu continue sa promesse, mais se reproduire pour que l'être humain puisse continuer. Et on voit dans le texte de la création, en Genèse 1, 27, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Et Dieu créa l'homme à son image. Dieu dit « Faisons l'homme » et Dieu créa l'homme. On voit qu'il passe du pluriel au singulier. Et il dit « Mâle et femelle, il les créa. » Donc on associe la création à une bénédiction de Dieu. La création, c'est ensuite que vient croisser et multiplier, remplissez la terre et soumettez-la. Dans le premier texte, ça continue après la création, croissez et multipliez-vous pour que la bénédiction continue. Dieu crée l'homme à son image, il le crée mâle et femelle, et à eux de devenir l'image de Dieu qu'ils ont reçue. Ils sont créés dans leur genre, homme et femelle, c'est la bénédiction. Ils participent à l'œuvre de Dieu qui est leur propre. Et il faudra qu'ils continuent à produire la vie. Cependant, il y a deux textes de création, vous le savez comme moi. Et le deuxième texte, il est plus ancien. Mais c'est marrant parce que le deuxième texte ne parle pas de procréation. Le deuxième texte, où on voit que Dieu invente l'homme, d'abord il invente l'homme, puis il invente la femme, en ayant dormi l'homme, il fait dépendre, naître la femme de l'homme, et il ne leur donne la reproduction qu'après le péché originel. Leur union, c'est quoi ? Genèse 2, 23-24, c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère, il s'unit à sa femme et ils deviennent une seule chair. Donc, dans le deuxième texte, qui était le plus ancien de la création, ce qui fait méditer ce qui le crée, c'est de dire, il crée une nouvelle unité dans laquelle l'homme et la femme vont être uniques et développer leur potentiel. Puis vient la péché originelle et la reproduction dans la douleur. Ça veut dire que ce qui est en cause, c'est l'unité des personnes qui s'aiment, moins que la reproduction dans ce deuxième texte, qui était le plus ancien au départ. On constate que cette fécondité se manifeste dans l'histoire du peuple de Dieu sous plusieurs aspects. Comme le fait de produire la vie, dans Genèse le premier texte, mais dans le Deutéronome, on le voyait, en fait, la fécondité comme bénédiction pour que se continue la promesse. Ce n'était pas le peuple en tant que tel pour qu'il soit un peuple fort, mais que le peuple puisse continuer à exister pour que la promesse soit encore entendue. Donc, comme je vous disais, parler de fécondité dans la Bible, il nous reste à chercher du côté, puisqu'on n'en parle pas beaucoup comme tel, le terme fécond ou fécondité, de voir du côté les fruits et les grains, ce qui produit, ce qui fait la vie. Et on se rend compte, par exemple, que le terme fruit apparaît 138 fois au singulier dans la Bible, dont 38 dans le Second Testament. Et 108 fois au pluriel, les fruits, dont 22 dans le Second Testament. Quant au terme grain, il apparaît moins souvent. Les grains ou le grain. Grain au singulier, 54 fois, dont 17 dans le Second Testament, le nouveau. Mais je préfère dire le second parce que nouveau, on dirait que l'autre, il est fini. Et les croyants pensent que dans les deux, le premier et le second, on a des paroles qui nous sont source de vie. Donc mettons-nous à l'écoute maintenant avec Jésus de comment il parle de la fécondité. Et je vais parcourir certaines évocations qu'il nous offre dans le Second Testament. Et on verra que dans le Second Testament, jamais il n'est parlé de la fécondité comme descendance. Même lorsqu'il parle Jésus du mariage, il le parle avec l'image de Genèse, le deuxième texte. Ils seront une seule chair. Il ne parle pas qu'ils vont se multiplier, qu'ils ont cette mission-là. Il n'assigne pas à la progéniture l'union de l'homme et de la femme, mais à l'union qu'ils constituent. Il parle de leur amour comme une force unitive plus que procréative. Ce sont donc les termes grains et fruits qui vont centrer notre réflexion dans le Second Testament. Dans l'évangile de Matthieu, c'est d'abord dans l'extrait où il parle sur le royaume de Dieu que Jésus évoque le grain. En Matthieu 13, 3, 9 et 18, 23. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait des grains, sont tombés au bord du chemin. Les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux. où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé. Et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé, les ont étouffées. D'autres, dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Puis je continue avec l'explication que Jésus en donne. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. Mais il n'y a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et de la séduction, de la richesse, étouffe la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Jésus enseigne les personnes pour leur donner des clés de lecture des événements. Il ne prône pas la peur, la crainte, il invite à contempler d'abord. Lorsque les événements nous semblent lourds, nous écrasent, arrêtons-nous et contemplons la nature au travail. Avant-hier, dans le train qui m'a mené à Rennes, j'allais à un baptême, j'étais assis entre Paris et Le Mans, à côté d'une conseillère d'une entreprise, une conseillère ressources humaines. Et elle me dit, vous êtes prête peut-être avec comment vous habillez? Je dis oui. Elle dit, vous savez, j'ai perdu la foi. J'ai perdu la foi parce que j'ai traversé une période très dure. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait un Dieu si une personne humaine rencontre tant de difficultés d'un seul coup. Alors, je n'ai pas réagi parce que je dirais, qui suis-je pour juger? Je lui ai dit, je comprends que devant la douleur, les souffrances répétées, notre source, elle s'assèche. Et donc, ça m'est parlé de plein de choses, de la vie, de l'espérance, je lui ai parlé du service que j'avais fait. Enfin, elle me dit qu'elle aimait beaucoup danser les danses sud-américaines. Ouh, je dis, c'est bien la salsa. Puis regardez, il y a une émission sur moi sur Google, vous cherchez le curé Fétard, il y a une vidéo. Elle va chercher son téléphone, elle me dit, ouh là là, mais c'est vous? Ben, j'ai dit, madame, en 2002, on est en 2019 maintenant. Ouais, qu'est-ce que vous dites, gentille. Et à la fin, elle me dit, vous avez un compte Twitter, vous avez dit, c'est votre nom? Non, c'est un nom indien. Alors elle note le nom indien, Tata Waina. Et elle me dit, ça veut dire jeune homme, ce qui n'est plus vrai. Mais par contre, la photo de profil, c'est moi aujourd'hui, ça me ressemble davantage. Le soir, elle m'a envoyé un beau message. Elle m'a dit, monsieur, elle m'a dit, Bernard, tu ne m'as pas redonné la foi en Dieu, mais tu m'as permis de recroire en l'homme. Je dis, voilà, la dame, elle fait son chemin. C'est pas... Je comprends que quelquefois, les événements douloureux font qu'on perd le sens de ce qui en nous est vivant. Et Jésus dit que si le travail n'est pas suivi, dans le quotidien, par une observation juste et précise, en observant ce qui autour de nous porte la vie, on va perdre l'énergie en nous. Donc, quand on rencontre des moments durs, pour retrouver le sens, il faut s'arrêter et contempler. Prendre le temps de retrouver nos sources à nous. Si c'est la lecture, si c'est la contemplation d'un paysage, si c'est prendre le temps de silence en prière. Mais prendre la clé du lieu où on se ressourçait avant. Et parfois, le projet humain rencontre des résistances. Dans notre quotidien, nous éprouvons la rudesse des choses, des paroles blessantes, des attitudes de mépris. Jésus ne laisse pas ses auditeurs se détourner de la confiance qui doit les caractériser. Si tu es ami de Jésus, retrouve le lieu de la confiance en toi. C'est le fondement de l'appel à l'existence. Tant d'enfants tout petits souffrent devant les blessures qu'ils reçoivent par les adultes qui se maltraitent entre eux. Combien de parents imposant 2-3 séparations aux enfants, c'est pas la séparation qui est grave, c'est que l'enfant devient un objet à l'intérieur. Et comme il n'est plus un être que l'on aime, il sent qu'il est rejeté, mais il passe sa vie à retravailler pour savoir comment il faut qu'il soit aimé. Puis des fois, un peu n'importe comment, mais il n'est pas responsable. Et je dis vraiment, retrouvons le sens comme adulte de la confiance. revenons là où on est né. On est né dans l'espace de confiance qui nous a été offert. Ce n'est que dans la confiance qu'on peut se développer et croître. Aussi, devant les embûches à la germination, Jésus ne cherche pas d'ennemis extérieurs, mais invite à réfléchir à la qualité de la terre qu'il doit produire, donnant à chacun de s'extraire du risque du monde duel dans lequel nous serions victimes des forces du mal. Oui, c'est le mal qui a fait ça. Peut-être. Mais avant de commencer à dire c'est le mal qui a fait ça ou tu risques de ne plus entendre quand toi se passent des choses qu'il faut que tu travailles, travaille à voir le terrain. Offre, réoffre ton terrain, retravaille ton terrain pour que tu sois capable de répondre à la mission de préparer la récolte. Par notre bon service de la plantation, tu as été semé, travaille le terrain pour que la plantation produise. Alors nous produirons à nouveau des fruits. Mais il arrive qu'ayant travaillé la qualité du matériel que nous offrons, nous soyons en présence de forces qui nous dépassent et que l'œuvre de fructification soit entravée. Alors Jésus continue à parler en parabole. Il n'explique pas de façon scientifique avec des lois universelles qui régiraient le monde, mais il s'entoure de l'observation pour que l'on puisse renaître au sens. Et en Marc 13, 24-30, il reprend une parabole. Il reprend une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs disent, « Veux-tu que nous allions l'enlever ?» Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. » Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'un bord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans le grenier. Devant la surprise de l'apparition dans le champ d'une herbe non désirée, Jésus désigne le mal à l'œuvre. Non pour connaître la peur ou la crainte, mais qu'ayant compris que ce n'est que le résultat d'une force inconnue, qui menacerait notre réussite, il rappelle la confiance en la présence de la force comme ce qui risque d'effaire nos forces, nous éloignant de la source de la vie le mal, mais surtout garder la confiance sur le bon grain qui a été semé. Et il raconte qu'à la fin, c'est l'ange qui enlèvera ce qu'il faut faire disparaître. Mais garder confiance dans ce qui a été semé, retrouver la confiance dans ce qui a été semé. On resitue la force qui a provoqué le désordre de l'homme pour qu'il puisse reprendre son service sans crainte de la bonne récolte. Tu vois que le mal est à l'œuvre? Oui, il y a des forces contradictoires. Retrouve la confiance dans ce qui t'a été donné au début. Ne l'oubliez pas, savoir que le mal nous contrecarre ne doit pas nous faire naître la peur, mais nous permettre de garder le cap dans la confiance, puisqu'on a identifié ce qui n'est pas juste dans ce qui se produit. Ayant identifié la force maligne, nous aurons la force de continuer à ensemencer la terre pour qu'elle porte du fruit. L'autre parabole que je retiens est dans le discours d'adieu de Jésus, juste avant son arrestation. Il donne en sorte quelques consignes. C'est en Matthieu 25, c'est un peu long, 13-30. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents. À un autre, 2 talents. Au troisième, 1 seul talent. À chacun selon ses capacités. Puis, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu 1 s'en alla creuser un trou, cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demande les comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu le talent s'approcha et dit aussi, « Seigneur, tu m'avais confié deux talents. Voilà, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu de grains. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlève-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra même enlever ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et grincements de dents. » Jésus, qui va partir, invite ses auditeurs à entendre qu'ils sont dans la situation des gestionnaires des biens que le maître leur a confiés. Il va partir, et eux vont devoir faire fructifier la promesse que Jésus leur a donnée en héritage. Aussi, ils sont riches des dons qu'ils ont reçus. Il va leur falloir faire fructifier ce qui leur a été confié. Et que l'on ait reçu beaucoup ou peu, chacun doit faire fructifier ce qui lui a été remis. Ne soyons pas dans l'envie du don des autres, mais ne doutons pas que nous avons reçu le nécessaire, car dans les deux cas, nous ne trouverons pas le chemin pour ce qui nous a été confié et que cela produise du fruit. Si on est envieux du don de l'autre, ou si on doute qu'on a reçu, on n'est plus en capacité de produire. Parce que dans les deux cas, ces peurs nous paralysent. L'autre a plus que moi, je ne suis pas capable de donner, je n'ai pas bien reçu, je ne donne pas. Nous pouvons craindre parfois de ne pas produire de fruits, mais sachant que le maître a toujours patience et s'est donné la chance pour que la plante que nous sommes trouve le moyen de produire ce pourquoi nous avons été créés. Et le maître a patience avec nous. Vous vous rappelez la parole du figuier, où les disciples ne sont pas contents qu'il n'y ait pas de fruit. Et Jésus dit non, laisse encore produire, on verra après si ça ne produit pas. Cette confiance profonde, ce que tu as reçu, fais-le fructifier. C'est là que tu as attendu. Et le dernier texte, c'est le texte au moment de la séparation. Quand Jésus va achever sa route, Jean, le disciple bien-aimé, pose des questions pour comprendre. Et Jésus va répondre par l'union intime qui est la seule force lors de la séparation. Lorsque la relation va se perdre, risquant d'altérer le vivant. En Jean 12, 20, 33. Il y avait là quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était à Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous les deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, lui aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il devait mourir. C'est donc au cœur de la fête de Pâques, alors que sont venus du monde entier les Juifs pour célébrer leur libération, certains pèlerins, ayant entendu parler du prédicateur galiléen, demandent à un des disciples de l'introduire pour rencontrer et entendre ce prédicateur fameux. Et Jésus ne commence pas en leur parlant de la gloire du royaume victorieux à venir, de leur dire merci de venir l'écouter. Il leur parle du chemin du disciple, le chemin de l'insertion dans la patte humaine. À ces étrangers qui sont fascinés par Jésus et son enseignement, il s'empresse de leur rappeler que le chemin de la vie passe par la mort. Mais que cette dernière n'est pas absence de la bénédiction de Dieu. La croyance des contemporains de Jésus associait la mort au séjour de la réprobation, à l'abandon. On était dans la géhenne en attendant la résurrection finale. Pour Jésus, elle est le passage obligé du vivant pour que son existence devienne vie. Il rappelle que toute la création accepte la mort comme condition d'émergence de la vie. Et cette logique ne peut être vécue que si elle est accueillie dans une relation d'abandon, de confiance, telle que Jésus a déployé son existence. Nous le voyons, cette extinction peut être source de peur, de résistance personnelle. Même Jésus le dit. Si c'est possible, pas cela. Cependant, elle est le passage habituel de celui qui sera associé à la vie du Père. La vie du Père, la gloire. Et on voit que cette phrase de Jésus est confirmée par un phénomène mystique, cette voix qu'on entend qui dit que Dieu va continuer à glorifier. Alors, n'ayons de crainte, y compris dans nos peurs les plus profondes, et remettons notre confiance entre les mains du Créateur. Il continuera à nous animer de son esprit pour que notre vie soit sous le signe de la bénédiction. Et cette bénédiction, vous le savez comme moi, elle vient de l'union avec Jésus. En Jean 15, 4, 17. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Et on voit, on revient à la bénédiction par l'écoute juste qui nous est dans l'application de ce qui a été confié. Si tu reviens au lieu où tu es né dans la foi et que tu te mets en application, en écoute attentive de ce que tu reçois, alors la bénédiction ne t'abandonnera pas. Ne l'oublions pas, il ne s'agit pas de redoubler d'activité ou de construire son attirail mental, de résistant face aux difficultés de la vie. Il s'agit seulement de déposer notre vie en confiance dans le cœur de Jésus. Il sait que nous sommes et que nous sommes, il nous permettra de trouver la mesure de notre être. Confiance face à ce qui nous semble complexe. Il nous faut seulement nous abandonner en nous rattachant à celui dont nous savons qu'il est dépositaire de notre existence et attend qu'elle produise l'eau de vie, cette eau vitale, en étant raccrochée à la source qu'est le Père. Je terminerai en vous racontant la belle histoire, une histoire de livre de la Genèse, l'histoire de Joseph. Sur trois chapitres de la Bible, du chapitre 37 à 50. Elle fait l'écho dans bien nos existences et parle de fécondité. Joseph était le fils du patriarche Jacob. Joseph est le 11e fils de Jacob. Le premier fils que le patriarche a eu de Rachel, cette dernière femme qu'il avait toujours aimée. Et c'est pour ça que Jacob aime beaucoup Joseph. Mais Joseph, il a des dons. Il rêve. Et il a le don d'interprétation des rêves. Dans sa famille, il se rêve souvent en grand chef que tout le monde vient vénérer. Vous racontez ce fils qui raconte ça à ses frères. Je rêve la nuit que je suis le roi, vous venez tous faire des prosternations autour de moi. Ben, les frères sont un peu jaloux, ils ne l'aiment plus. Donc, ils vont faire en sorte de le faire disparaître. Les frères sont jaloux, c'est compréhensible. Même si son rêve va s'avérer vrai. Puisque vous savez qu'ils vont le livrer aux Ismaélites, il va arriver en Égypte, et son don va reparaître. Donc Joseph est emmené en Égypte parce que ses frères le vendent. Il est vendu, et il est vendu à Potiphar, commandant des gardes du Pharaon, qui fait de lui l'intendant de sa maison. Mais harcelé par la femme de son maître de Potiphar, elle le trouve beau. Elle voudrait coucher avec lui. Et donc, Potiphar, entendant ça, le met en prison. Et voyez comme la vie est curieuse. Cet homme qui avait le don de rêver, qui était le chef de ses frères et que tout le monde voulait vénérer. Quand le pharaon a un rêve que personne ne sait expliquer, Potiphar, le garde des soldats, se rappelle que Joseph, qui est en prison, a ce don. Il le fait sortir. Joseph interprète le songe de Pharaon, et Pharaon, tellement content, lui donne l'administration des biens du royaume. Donc, le don qu'il sentait jeune, il ne le racontait pas comme il fallait, parce que ça devenait une source de haine de ses frères et sœurs, ses frères surtout. Eh bien, son don ne l'a pas abandonné. Mais malgré les événements douloureux, que la femme le trouvait beau, qu'elle voulait coucher avec, tout ça, malgré la prison, le don a continué à se faire savoir. Et le don lui a produit la bénédiction. Vers la fin du récit, ce qui est beau, Joseph va se trouver face à la question du sens. Sa vie en exil a-t-elle du sens? Et la question de la transmission. La vie est-elle féconde? Et il va le faire par la nomination de ses deux enfants. Les deux premiers, vous savez combien compte le nom dans une personne dans la Bible, car elle dit son identité. Cela dit qu'elle est une personne à part entière. Et le nom a parfois un sens qui inclut toute la vie. Ces deux fils qui naissent en Égypte sont fils de leur mère qui est égyptienne. Ils sont associés à son histoire d'exilé. Comme cela est souvent le cas dans la Bible, Joseph va leur donner à chacun un nom qui dit quelque chose de ce qu'il a vécu, vit ou désire vivre. Le premier nom du premier des deux fils, ça va être Manassé. Ce nom vient du verbe nacha, oublier, priver. Joseph nomme son premier fils Oubli. Par ce nom, il indique que s'il a souffert profondément la déchirure de ses frères et de l'exil, de la prison, il a le désir de tourner la page, d'oublier. Désir légitime. Désir ambigu, car peut-on vraiment oublier? Mais en nommant son fils Oubli, Joseph veut-elle oublier? C'est un paradoxe, donner un prénom qui lui rappellera sans cesse l'oubli. On ne peut oublier un passé qui fait mal. Le fait de nommer son fils Oubli indique le dépôt de cet oubli dans sa mémoire. Il ne s'agit pas ainsi d'oublier, dans le sens d'une amnésie, mais de placer ce qui a été vécu dans le passé, de le maintenir dans le passé pour le dépasser. C'est quelque chose qui a à voir avec le pardon. Ne pas oublier, ne pas effacer, mais déposer pour regarder par-dessus, au-delà. Ne pas se laisser emprisonner pour pouvoir repartir. C'est un thème qui traverse toute la Bible. La mémoire comme reconnaissance, qui permet de se détacher du passé pour se mettre en route et regarder son avenir. Et c'est la perspective qu'offre le nom du second fils avec la femme égyptienne, Éphraïm. Ce nom vient de l'hébreu Ephata, lieu de la fécondité. Lui-même construit de la racine para, porter du fruit, être fructueux. Joseph nomme son second fils fécondité. Il s'agit là non plus de regarder le passé, mais de se laisser entraîner vers l'avenir, de voir l'horizon d'une vie possible, d'une vie qui se démultiplie, qui porte fruit, qui espère. La fécondité dans la Bible est présente, comme nous l'avons vu. Combien d'histoires de vie finies sans espérance qui repartent. Celle de Joseph en est l'exemple. Il y a toujours un avenir possible. Tout être humain peut porter du fruit. À chaque fois, c'est une nouvelle création. Nommer son deuxième fils fécondité est pour Joseph une manière de signifier qu'il porte désormais son regard vers demain. Un geste d'espérance. Oubli et fécondité. Ainsi en est-il de la vie. Articulation nécessaire entre le passé à quitter et l'avenir à construire. Poser le passé pour pouvoir avancer. S'alléger pour pouvoir se démultiplier. Se détacher pour pouvoir partager. Ces deux prénoms sont hautement significatifs dans nos vies, comme une manière à nous inviter à nous mettre en mouvement, quelles que soient les épreuves que nous avons traversées, ou que nous traversons, ou traverserons. L'appel ne pas se laisser enfermer et apporter du fruit, c'est l'appel de Dieu pour nos vies. Un appel comme une promesse, comme une bénédiction. Le jour du grand pardon, la fête du Yom Kippour pour les Juifs, ce jour où se posent l'oubli et la fécondité, les juifs bénissent leurs enfants en reprenant les paroles de la bénédiction de Jacob. Jacob, le grand-père, sur ses deux petits-fils, que nous trouvons quelques chapitres plus loin. « Puisse l'Éternel faire que tu sois à l'image d'Éphraïm et Manassé. » C'est-à-dire que un rabbin contemporain, Delphine Orwiller, traduit la chose « Puisses-tu ne pas être obsédé par le passé, puisses-tu être capable d'exister hors de ton lieu d'origine ?» Puisses-tu savoir que la vie existe même après la tragédie ? Ou encore, souviens-toi de ceux qui ont su oublier un peu. Souviens-toi de tous ceux qui ont su fleurir malgré les épreuves. Il s'agit de poser à leur juste place les épreuves pour avoir une vie qui porte fruit. Trois pépites du texte. Un combat permanent. Ces deux fils égyptiens, Joseph, Manassé et Ephraïm, vont être la naissance de deux tribus d'Israël, dont l'histoire parmi les 12 tribus, sera étroitement lié. Ce sera 2 tribus du peuple. Les enfants nés dans l'exil seront 2 tribus des 12 tribus du peuple. Donc, une histoire qui ne sera pas exempte de conflit, mais une histoire qui va continuer à produire. Oubli et fécondité sont parfois en rivalité. Ils se disputent leur territoire en nous. Passé et avenir ne s'articulent pas toujours bien. Ils sont toujours liés, mais souvent en tension. Bonne nouvelle, quand cela tiraille en nous, c'est normal. Cela fait partie de notre humanité. Une logique inversée. Dans cette tension entre le passé et l'espérance, lequel des dieux est le premier ? Le premier est oubli, le second est espérance. Mais ce qui est marrant, c'est que quand le grand-père veut bénir, le grand-père devait poser la main droite sur oubli, bénir le premier, et la main gauche, la seconde, le cadet, espérance. Eh bien, le patriarche va inverser les mains. Il va poser la main droite sur espérance, et la main gauche sur le premier, qu'il fera bénir en second, oubli. Le patriarche, le grand-père, rappelle que ce qui est prioritaire, c'est l'espérance et pas l'oubli. Cela nous indique le passage. Le chemin de la foi passe d'abord par l'espérance, et que c'est celle qui nous permet de nous détacher du passé qui nous plombe. C'est le sens de la grâce qui précède la repentance. Et dans nos vies, c'est pareil. Balloter entre passé et avenir, entre détachement de ce qui nous pèse et ouverture à ce qui se développe, entre oubli et fécondité, c'est la deuxième qui est principale. Bonne nouvelle, en Dieu, toujours l'espérance est première. L'origine est en avant. C'est la fécondité qui est première. La grâce est prévenante. Le nom d'Éphraïm dérive d'Éphrata, comme je vous l'ai dit. Ce nom veut dire fécondité. C'est marrant, Éphrata, c'est le lieu où est enterrée Rachel. Et si vous vous rappelez dans la Bible, Éphrata, c'est l'autre nom de Bethléem. Bethléem Éphrata. Lieu de la fécondité, lieu où par l'histoire d'une femme qui met au monde celui qui va devenir chemin d'espérance. C'est Bethléem, c'est à Bethléem que Marie accouche de Jésus, dont le nom signifie Dieu sauve. C'est là que commence une autre origine, non pas portée vers le passé, mais vers l'avenir. Non pas vers la mère, mais vers le fils. Dans la foi chrétienne, notre espérance est devant nous. Et nous la nommons le règne de Dieu. Ce règne qui advient, où vont naître les nouvelles relations que Jésus a commencé à amorcer. Et maintenant, au cœur de nos vies, même les plus mouvementées, encore devant nous, dans l'espérance du royaume, quel que soit notre passé, notre histoire, nos échecs, nos épreuves, un lendemain est toujours possible. La vie est toujours à transmettre. Nous ne marchons pas le regard tourné en arrière, mais le cœur porté vers l'avant. Nous ne stagnons pas dans la nostalgie ou le remords. Nous avançons dans l'espérance. En Jésus-Christ, lui que la mort n'a pas pu retenir, lui qui est sorti du tombeau, lui qui a ouvert notre chemin, lui qui nous précède sur la route, lui qui nous appelle à la vie, pour suivre avec lui et par lui, pour porter du fruit dans ce monde qui en a tant besoin. Bonne nouvelle, le Christ rend nos vies fécondes.